Soirée spéciale, élection municipale sur France Bleu Azur.
Et nous sommes en direct de Cannes au Théâtre de la Licorne avec Laure de Beaulieu. Bonsoir Laure.
Bonsoir Médéric et bonsoir à tous. Nous sommes, vous l'avez dit, en direct du Théâtre de la Licorne à Carnes et merci de nous accueillir dans cette salle pour ce débat qui va durer une heure, ce débat radio. C'est notre septième rendez-vous en partenariat avec Nice Matin. Pour débattre autour de la table, il y a deux femmes et quatre hommes. Nous sommes nombreux ce soir. Nous commencerons par elles, mesdames. Madame Anne Magerie pour la liste du Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts et le MRC. Madame Magerie, bonsoir.
Bonsoir et merci à toutes les personnes qui se sont déplacées ce soir.
Catherine Dorten pour la liste du Front National. Madame Dorten, bonsoir.
Bonsoir, merci de vous être déplacée. Je suis ravie de voir que j'ai pu rassembler une salle aussi importante.
Oui, il y a du monde autour de nous. Deux candidats également UMP. David Lisnard, bonsoir David Lisnard. Bonsoir. UMP également. Philippe Tabarot, Philippe Tabarot, bonsoir. Oui. Vous l'entendez autour de nous, la salle est pleine. Il y a bien plus de 500 personnes dans la salle de ce Théâtre de la Licorne. Merci à vous, public, d'être là pour assister à ce débat. Vous allez voir, il y aura de l'ambiance. D'autres candidats sont également avec nous. Dominique Enrault pour le Front de Gauche. Bonsoir, monsieur Enrault.
Bonsoir à tous.
Et monsieur Jean-Pierre Villon, écologiste indépendant. Bonsoir.
Bonsoir. Et je remercie la salle d'être présente et de suivre la politique. Il faut du courage, mais le courage, ça ne se démode pas.
À mes côtés, David Di Giacomo, journaliste à France Bleu Azur pour mener le débat. David, bonsoir.
Bonsoir.
Et Olivier Biscay, bien sûr, directeur des rédactions de Nice Matin, notre partenaire. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Je salue également nos techniciens, réalisateurs qui sont là, Virginie Lorda, Aubert Naturel et Raphaël Rousseau. Merci à eux. Nous sommes ensemble pendant une heure. Le débat est à suivre, bien sûr, sur francebleu.fr et sur le site de Nice Matin. Bonne soirée à tous.
Soirée spéciale, élection municipale sur France Bleu Azur.
L'élection municipale à Cannes est quelque part une élection un petit peu atypique dans le paysage politique du département, avec deux candidats UMP, David Lisnard et Philippe Tabarot, on l'a dit. Les observateurs nationaux parlent à Cannes en quelque sorte d'un remake, un remake du bras de fer Copé-Fillon à l'échelle et à la sauce cannoise. Alors je vous pose la question pour commencer ce débat, la question politique à tous les deux, Philippe Tabarot, David Lisnard, est-ce le cas? Qui commence? Philippe Tabarot.
Ben écoutez, sincèrement, dans ma campagne, pour l'instant, personne ne m'a parlé de M. Copé, personne ne m'a parlé de M. Fillon. Les Canois et les Bocassiens m'ont parlé de leurs problèmes quotidiens, des problèmes de sécurité, des problèmes de transport, des problèmes d'attractivité de la ville, des problèmes de fiscalité.
Ça vous agace qu'on fasse cette comparaison?
Non, pas du tout, mais c'est pas la réalité. On est vraiment, on le ressent dans le cadre d'une élection municipale où ce sont les problèmes quotidiens des Canois et des Bocassiens qui reviennent régulièrement dans les discussions et très très peu de questions viennent sur la politique politicienne.
Philippe Tabarot, la réconciliation avec David Lisnard de votre propre parti, elle est impossible, inenvisageable?
Écoutez, ce soir, c'est pas parti pour, j'ai l'impression. Mais en tout cas, non, je crois que, je sais pas, on aura l'occasion d'en discuter peut-être dans le débat. Je ne sais pas ce qui nous sépare au niveau national, puisqu'on fait partie de la même formation politique, et probablement quelques différences. Pour autant, ce qui nous différencie simplement et sûrement, c'est la manière de gérer demain la ville de Cannes, où là, je pense qu'on a de vrais clivages.
Alors, David Lisnard, justement, sur cette comparaison nationale cannoise, Copé-Fillon, Lisnard Tabarot, votre avis?
Effectivement, l'enjeu est local. Et pour moi, il est concentré sur l'avenir de la cité, sur la façon de construire une ville de Cannes toujours plus agréable à vivre, plus pratique, plus prospère, plus tonique, à l'écoute de ses commerçants, de ses artisans. Et puis peut-être que c'est au plan national que parfois on a eu un remake des affrontements locaux, et pas l'inverse, en l'occurrence lors de l'investiture. Aujourd'hui, moi, je suis concentré dans mon projet, sur mon projet, dans ma relation avec les habitants. Et puis, les choses se passent de façon positive. Et c'est comme ça que j'entends la vie, et la vie politique notamment.
Réconciliation impossible, même question qu'à Philippe Tabarot.
Mais je ne sais pas si... on n'est pas, c'est pas une histoire personnelle, si vous voulez. On a chacun notre parcours. j'ai mon projet, j'ai ma légitimité, j'essaie de faire progresser des choses, et puis les Canois choisiront. La vie est simple, on n'est pas là pour se réconcilier ou pas. J'essaie de construire l'avenir, de me fonder sur un bilan, et puis d'innover tout en étant dans la continuité, et chacun a son offre politique, et a son offre constructive pour la ville. En tout cas, moi j'essaie d'être constructif et d'être résolument positif.
Alors David Lisnard, rappelons-le, vous êtes le premier adjoint de Bernard Brochand. Bernard Brochand qui a donc décidé de ne pas se représenter, il a fait 2 mandats à la mairie de Cannes. Vous vous inscrivez comment, David Lisnard, dans la continuité de Bernard Brochand?
Je crois que je viens un petit peu d'y répondre.
C'est-à-dire oui, mais aller plus loin.
Il y a un travail qui a été fait qui est important. Je pense qu'indéniablement, la ville s'est embellie dans beaucoup de domaines et il y a eu des progrès considérables sans toucher à la fiscalité locale et en amorçant un cycle de désendettement depuis 6 ans. Et puis je veux innover parce que j'ai un nouveau projet, j'aurai une nouvelle équipe, de nouvelles méthodes et que si les Canois m'accordent leur confiance, eh bien j'ai envie de faire progresser la ville, la lutte contre l'incivisme qui sera la cause municipale, d'avoir un grand projet avec en particulier le campus universitaire, de faire de Cannes une ville étudiante, une ville attractive, une ville prospère et j'essaie de construire un projet global et local et dans le détail aussi.
Catherine Dorten, pour le Front National, comment vous vous positionnez entre cette bataille, entre 2 candidats UMP?
J'étais très surprise de voir 2 UMP, donc je pense que... Dans un premier temps, en canois simple, je me suis dit, ils n'ont peut-être pas été assez bons, on n'a pas réussi à choisir entre eux. Après, je me suis dit, peut-être qu'il en fallait 2, tellement j'étais forte en face de moi.
Écrasent les autres candidats?
Oui. Oui, parce que bon, on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes, si vous voulez, les mêmes. Bon, il y a une démocratie quand même en France, heureusement, mais on n'a pas les mêmes facilités. Je pense que j'ai pas été attaquée franchement par eux. Je pense que ça s'est relativement bien passé. J'étais un petit peu mise à l'écart puisque les 2 entre eux avaient suffisamment à faire.
Vos objectifs au Front National, du coup, c'est le second tour. Vous espérez y arriver?
J'espère arriver au second tour et j'espère pas simplement être une faiseuse de roi, mais que ce sera peut-être des faiseurs de reine.
Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez vous tirer profit justement de cette division UMP?
J'ai analysé dans tous les sens, mais si vous voulez, je ne suis pas dans une politique politicienne, je ne suis pas en train de faire des calculs, il y a des gens qui sont sans arrêt, 14%, 10%, 12%, les gens passent à faire ça, j'en ai même chez moi, je vais vous dire, non, moi, ce que je veux, c'est, je me place en tant que canoise, c'est ce qui m'a investi à Cannes, c'est justement parce que ma vie était devenue difficile, à plusieurs, bon, si on a l'occasion d'en parler dans le débat, c'est-à-dire aussi bien au niveau des écoles, de la circulation, des personnes âgées et je me suis dit bon, il faut du courage parce que c'est pas toujours facile de se lancer dans l'arène politique. J'étais une militante jusqu'à présent, mais à un moment donné je pense qu'il faut s'engager et il faut avoir du courage et j'espère que les gens un jour auront du courage pour changer les choses. Voilà.
Anne Magerie, je me tourne vers vous, comment vous faites vous cette campagne à côté de ce bras de fer UMP qui prend de la place, hein, qui prend même beaucoup de place? Comment vous faites pour vous faire entendre?
Alors, pour se faire entendre, heureusement, on a la presse qui relaie quand même par des articles certains positionnements qu'on a eus dans la campagne. J'ai aussi des militants qui sont très présents sur le terrain et qui m'aident beaucoup et avec lesquels on va à la rencontre de la population, dans les porte-à-porte, sur les marchés, dans les commerces. Et c'est vrai que là, on a un vrai contact avec la population et on comprend réellement les problèmes. Et je pense que c'est de ces problèmes-là que je vais essayer de parler ce soir.
Dominique Enroux, pour le Front de Gauche, une candidature unique de la gauche à Cannes, c'était là aussi impossible, on se divise aussi à gauche?
Non, ce n'était pas impossible. Ce n'est pas impossible, mais on a fait le choix.
Ça n'a pas été fait.
On a fait ce choix-là, parce que, bien évidemment, le Front de Gauche a une attitude relativement critique avec la politique du gouvernement, la politique d'austérité, et qu'on voyait mal comment on pouvait dire qu'à Paris, au gouvernement, il se passe des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, et puis ici, passer un accord. Voilà. Donc, nous, on a fait le choix de garder notre parler de mener une liste séparée.
L'accord était impossible, même sur des sujets locaux.
Olivier Biscaye.
L'accord était impossible, même sur des sujets locaux.
Non, mais sur des sujets locaux, on se rejoint tout à fait. Mais à un moment donné, quand vous faites partie d'une liste dont la tête de liste est dans le parti qui est au gouvernement, vous perdez votre droit de parole publiquement. L'honnêteté intellectuelle veut que on perde son droit de parole. Voilà. Et donc,
Madame Majerie,
c'est
vous
le choix qu'on
vous faites non de la tête. Vous n'êtes pas
juste,
d'accord.
Non, je suis juste, pas d'accord. Moi, je voulais ajouter concernant la bataille UMP. Mm-hmm. Quoi qu'il en soit, le maire sera UMP. Hein, véritablement un choix politique. Quoi qu'il en soit, c'est la politique de l'UMP qui sera mise en œuvre au plan local. Pourquoi et c'est une politique avec laquelle on n'est pas d'accord.
Catherine Dorten,
je ne comprends pas pourquoi vous partez perdant déjà dès le début. Je veux dire, il faut y croire. Alors, je suis peut-être très naïve, mais il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Je trouve que quand on s'investit à fond et on n'est pas déjà en train enfin, je ne sais pas. Enfin, moi, je suis venue vraiment pour gagner.
Et je trouve justement que c'était un peu le pari de faire perdre la gauche que de pas venir avec nous alors qu'on leur avait largement ouvert la main.
Jean-Pierre Villon, on ne vous a pas encore entendu pour l'Alliance écologiste indépendante. Oui. Vous disiez que vous aviez eu du mal à boucler votre liste. C'est fait ce soir ou pas ?
Oui, oui, mais ça a toujours été difficile pour tout le monde de faire une liste.
Elle sera déposée ? Elle sera déposée.
Oui, elle sera déposée.
Vous
oui.
allez la déposer quand ?
Oh, demain ou après-demain, ça sera. En général, on pose le dernier jour parce qu'il y a toujours des rectifications.
Vous disiez qu'il y avait eu un manque de motivation.
Oui, beaucoup de manque de motivation. Ben, vous savez, c'est dû un peu à ce qui s'est passé pendant cette dernière mandature à Cannes, c'est que il y a eu une utilisation outrageuse du paravent de l'écologie pour cacher ce qui se faisait derrière et qui était vraiment loin d'être écologiste. Voilà.
Vous estimez qu'on n'en parle pas assez?
On en a trop parlé, mais on n'en a pas assez fait.
D'accord, très bien. Nous y reviendrons un peu plus tard. Une question d'Olivier Biscay.
Oui, une question à l'ensemble des candidats. Comment chacun d'entre vous définissez-vous le climat de la campagne ? On a l'impression que c'est ultra tendu et qu'il y a une espèce de bulle à Cannes entre les tracts, les rumeurs, les coulisses. Et je sais que nombre d'entre vous, pour en avoir discuté, le vivaient assez difficilement.
David Lissner.
Climat de giboulée, hein, vous l'avez constaté ces dernières heures, mais vous savez, on est habitué à Cannes à avoir des campagnes un peu compliquées. C'est pas la première fois qu'on a de la dissidence, hein, y compris à l'UMP. On a Philippe Tabarot qui était dissident il y a 6 ans, il l'est cette année aussi.
Et vous aussi, et
donc,
contre Mme Éric.
Merci. Donc, et puis il y a un vieux contexte, années 90. Oui, l'élection cantonale que j'avais gagnée, effectivement. Et donc, un vieux contexte années 90 qui est tendu et qui ressort de temps en temps. Et c'est pour ça que là-dessus, il faut rester très concentré, très positif. Moi, j'étais un peu tout à l'heure étonné d'entendre les questions politiciennes. Quand on construit un projet, on construit un projet pour tous les habitants. C'est pas un projet UMP ou Front National ou socialiste. On essaie de construire le meilleur projet possible en phase avec ses convictions, évidemment. Et puis ensuite, il y a des stratégies, des tactiques. Monsieur Villon qui revient tous les 6 ans, qui voilà, on sait pour qui il roule, quoi. Bon, c'est comme ça. Ça fait partie de la vie politique locale. J'essaie, je vous assure, et dans toutes les réunions, d'être tourné vers le projet, l'avenir, l'intérêt de nos enfants, la fidélité aux générations précédentes. Je crois que c'est la base de tout dans la vie.
Philippe Tabarot, sur ce climat.
Écoutez, le climat, je ne peux que constater qu'il est particulièrement lourd et qu'il a été largement relayé par la presse nationale et un petit peu moins par la presse locale, mais en tout cas beaucoup par la presse nationale. Moi, ce que j'aimerais dire simplement également, c'est que quelque part, on occulte et on essaie d'occulter les vrais sujets qui intéressent les Cannois, comme je l'ai dit au début de mon intervention, et que ces différentes déclarations, ces différentes accusations sur les uns et les autres occultent le vrai débat de fond. Moi, c'est le débat que j'aimerais avoir. Quand M. Lissner nous dit tout à l'heure qu'il s'inscrit dans la politique et dans la suite de M. Brochand, j'aimerais qu'il m'explique pourquoi, par exemple, sur le bus à haut niveau de service, comme il voit que ça fonctionne pas aussi bien qu'il l'espérait, qu'il fait marche arrière. Quand, par exemple, hier, vous annoncez aux riverains du boulevard Picot que vous ne souhaitez plus faire la cité du cinéma, alors qu'il y a moins d'un an, vous la présentiez au MIPIM aux côtés de M. Brochand, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu, voilà, le derrière, pour pas être vulgaire, entre deux chaises, et que vous êtes obligé. D'assumer un héritage, mais quand on assume un héritage, on assume le passif et l'actif. C'est comme ça.
David Lissner, naturellement, vous voulez répondre ? Allez-y, David Cisnaro.
Non, mais simplement, vous voyez, ce qui est dommage dans ce genre de débat, et c'est ce que je craignais en arrivant ici, c'est qu'on retrouve le mauvais remake de ce que l'on a en conseil municipal, avec quelqu'un qui ne fait que dénigrer systématiquement, qui est dans le négatif, qui voudrait vraiment que le public, quel qu'il soit, nous laisse débattre. Je pense que ce serait bien pour nous tous. Et à ce titre, sur le BHNS, quel plaisir de voir que la ligne du BHNS a plus 30% de fréquentation par rapport à N-1. De voir le boulevard Carnot embelli et rénové.
C'est pas un débat.
Raisonnablement, les riverains qui vivent mieux, qui respirent.
Donc, s'il vous plaît,
je crois très, très sincèrement que personne n'a la science infuse, tout n'est jamais parfait, mais que c'est notre ville. A bien évolué dans beaucoup de domaines malgré un contexte de crise très dur. La crise est là, à Cannes aussi. Et que parallèlement, eh bien maintenant, il faut écrire une nouvelle page de l'histoire municipale puisque le maire ne se représente pas.
Alors, nous allons rentrer dans les dossiers sécurité, transport. Justement, nous allons reparler du bus, nous allons parler logement et impôts. Nous marquons une pause tout de suite à 19h15 sur France Bleu Azur.
Et maintenant, suivons la journée d'un professionnel avec Gann.
Julie, fleuriste. 8h, direction la boutique. 10h, je me dépêche et je dois finir les bouquets pour un mariage. Mon livreur doit passer les prendre d'une minute à l'autre.
14h, un petit sandwich.
18h, que ça passe vite. Oh, j'allais complètement oublier la commande de mon charmant retraité. Tiens, ici, je pensais à ma retraite, moi aussi.
Votre retraite, c'est demain. Parlons-en aujourd'hui. Avec Gann, préparez la retraite que vous méritez. Des solutions performantes qui s'adaptent à votre vie de professionnel, c'est ça, le suivi expert pro. Gann, assurez d'avancer. Rendez-vous chez votre conseiller Gann ou sur gann.fr.
L'actualité des Alpes-Maritimes, les experts, la cuisine.
Jean-Pierre Coff, santé de ce corps.
Tapis rouge.
100% aiglon.
Azur en scène.
Amis de l'actu
et les chevaliers du fiel.
Chers auditeurs et auditrices, je vais vous donner un vrai conseil.
Retrouvez tout l'univers de France Bleu Azur
sur francebleu.fr.
En quelques clics, accédez à tous vos rendez-vous favoris, aux équipes de France Bleu Azur
et à nos partenaires.
Gardez le contact avec votre radio
et sur francebleu.fr.
Nous sommes en direct du théâtre de la Licorne à Cannes et nous poursuivons ce débat dans le cadre des élections municipales. Nous avons à nos côtés David Lisnard, candidat UMP, Philippe Tabarot, candidat UMP, Catherine Dorten pour le Front National, Anne Magerie pour le PS Europe Écologie Les Verts MRC, Dominique Enro pour le Front de Gauche et Jean-Pierre Villon, écologiste indépendant. Nous sommes en direct et en public jusqu'à 20h.
Soirée spéciale, élections municipales sur France Bleu Azur.
Les Cannois se sentent-ils en sécurité dans leur ville? C'est le premier thème de campagne que nous abordons ce soir. Durant ces deux mandats, Bernard Beauchamp a pas mal misé. Nous allons en reparler sur la vidéosurveillance pour faire baisser la délinquance. Cannes est une des villes d'ailleurs les plus filmées de France, on peut le dire, avec une caméra pour 176 habitants. Est-ce que c'est pas trop, David Lisnard?
Écoutez, je ne crois pas que ce soit trop. Je pense qu'il faut d'ailleurs continuer à développer la vidéosurveillance. C'est un maillon parmi d'autres. C'est-à-dire que ça va compléter une présence policière sur le terrain de la police municipale et de la police nationale. On est sur une fonction régalienne, donc la mairie a un rôle important à jouer, mais n'est pas le maillon premier, puisque la politique pénale a des incidences majeures sur la sécurité, la politique du ministre de l'Intérieur aussi, mais il faut continuer à protéger les Cannois dans les quartiers. Il y a des problèmes à régler. C'est une question pour nous de qualité de vie. C'est essentiel, et puis une question d'attractivité et d'image de la cité.
Vous laissez le système tel quel, ou vous ajoutez des caméras si vous êtes élu?
On continuera de déployer le système de vidéoprotection. Alors, il est vrai qu'un énorme travail a été fait, puisqu'on est parti de zéro, on a un taux d'équipement très élevé aujourd'hui, le plus élevé de France, mais il y a encore des secteurs en zone noire, et cela doit être complémentaire avec l'intervention des forces de l'ordre sur place. La caméra, c'est pas la panacée, mais c'est un élément qui aujourd'hui, d'ailleurs, transcende les clivages partisans, on le voit dans beaucoup de cités, et il faut continuer à être pragmatique, c'est la seule façon. La sécurité doit être une question technique avant tout.
Philippe Tabarot, même question sur vraiment la vidéosurveillance, la vidéoprotection.
Écoutez-moi, la vidéoprotection, j'ai trouvé qu'il y avait peu de personnes qui la regardaient. Par contre, la vidéo-verbalisation, il y avait beaucoup d'agents derrière. Moi, je veux bien, je suis tout à fait favorable à ce qu'on puisse installer comme ça a été le cas et ça avait
on
été
poursuit,
déjà...
On poursuit, on continue
ça,
à développer.
Ça avait déjà, oui, tout à fait, ça avait déjà été commencé précédemment et la municipalité a continué ce programme. Donc,
là, vous vous rejoignez alors.
On se rejoint tout à fait. Par contre, moi, je trouve que en termes d'efficacité, en termes d'efficacité, comme il n'y a pas suffisamment d'équipes sur le terrain, cette vidéo de protection sert beaucoup moins. Parce qu'il n'y a pas de flagrant délit, elle sert dans le cas d'élucidation, souvent en étant requis par la police judiciaire ou par le parquet, c'est une bonne chose, mais en cas de flagrant délit, pour intervenir, nous n'avons pas suffisamment de patrouilles pour être sur le terrain au moment où l'agression se passe. Et puis je vous le dis également, il n'y a pas suffisamment de personnel au niveau du centre de prévention urbain, et ces personnels sont majoritairement sur la vidéo verbalisation plutôt que sur la vidéo protection. Et
vous,
c'est pour
vous
ça
parlez qu'on... des patrouilles, Philippe Tabarot. Ouais. Dans votre programme, vous dites on embauche 50 policiers municipaux.
Alors je dis,
où vous trouvez donc le budget pour ça?
Je dis deux choses.
Peut-être pour faire un drive-in.
Je dis deux choses. Je dis tout d'abord.
Comment vous financez ces 50 embauches ?
Je dis tout d'abord qu'il y a eu pendant toutes ces années 50 policiers municipaux qui étaient dans la police municipale et qui étaient employés à des tâches administratives et qui n'étaient pas sur le terrain. Donc la priorité, c'est de remettre ces agents sur le terrain. Et je vois que ça avait été nié pendant quelques années au sein du conseil municipal quand on parlait de ça, et que dans son programme, mon collègue David Lisnard parle maintenant de 30 agents qu'il souhaite remettre sur la voie publique. Donc c'est la preuve qu'il y avait bien des agents qui étaient dans des bureaux plutôt que d'être sur le terrain.
Vous n'avez pas répondu à ma question.
Et j'y arrive. Et sur les 50 supplémentaires, c'est un effort, parce que pour moi la sécurité est une priorité, comme ça a été dit.
C'est un gros effort, c'est une part du budget importante, 50.
C'est une priorité pour les habitants, c'est une priorité pour l'attractivité de la ville. On ne peut plus se permettre l'été qu'on a passé avec le braquage du Carlton, avec les vols de bijoux, les vols du bijou pendant le festival du film. On ne peut pas se permettre non plus d'avoir un Anglais qui est tué dans le Carré d'Or. Ça a une image internationale qui est catastrophique pour notre ville. Alors à la fois pour la protection de tous les Canois dans tous les quartiers par rapport à différents faits divers qui se sont passés également pour tous les habitants de notre commune, des cambriolages qui sont en hausse de manière très nette, et d'un autre côté, pour l'image de notre ville, il est indispensable de remettre de l'ordre dans cette police, d'avoir un vrai chef, d'avoir un vrai adjoint à la sécurité, et réorganiser totalement ce service qui a bien fonctionné par le passé, mais qui fonctionne beaucoup moins bien aujourd'hui.
Alors, je voudrais réponse de David Lisnard, s'il vous plaît.
Laissez répondre David Lisnard, on n'entend pas sinon.
Merci. Service qui a bien fonctionné par le passé. J'invite tous les Canois à relire le rapport de la Chambre régionale des comptes sur le fonctionnement de la police municipale avant 2001. Je rappelle que lorsque Philippe Tabarot a quitté la majorité municipale, il y avait, source ministère de l'Intérieur, 8115 faits de délinquance en 2000 à Cannes. Il y en a eu 2313 en 2013, grâce au travail des forces de l'ordre.
Les gens ne déposent plus plein.
Il y a une façon de faire de la politique qui consiste à dire 2800 fois dans l'année.
Les gens ne déposent plus plainte, ils en ont ras-le-bol.
On peut faire 2800 communiqués pour stigmatiser, pour dénoncer l'insécurité. Il y a 15 ans, on aurait pu le faire 9000 fois. Alors, il y a encore des efforts à faire. Il faut passer à un nouveau cycle, évidemment, comme dans tout. Il faut progresser, mais sans
effet gadget. Est-ce que vous embauchez 50 agents?
Mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, ce soit la priorité. La priorité, c'est la sécurité. C'est la sécurité, mais ce n'est pas la démagogie et le populisme.
Alors,
c'est l'organisation. Il faut toujours optimiser l'organisation de la police, mais pas forcément. On a la deuxième police municipale en nombre d'effectifs. Donc s'il faut en compléter, on le complétera.
204 policiers
municipaux. Mais ce n'est pas aujourd'hui la priorité sur le plan quantitatif. C'est une question d'organisation des missions qui doivent coller au rythme de la ville.
Ils sont dans les bureaux, madame Laure de Beaulieu. Ils sont dans les bureaux.
Non, parce que vous confondez quelque chose.
Bien sûr, bien sûr. Je vais vous donner la parole.
Vous avez dit à plusieurs reprises que ces agents étaient dans le bureau en citant un chiffre d'agents dans les bureaux, parce que vous disiez qu'ils n'étaient pas en uniforme sur le terrain. Parce que vous avez intégré dans les agents de bureau les gardiens de square qui ne sont pas dans les bureaux. Donc arrêtez d'essayer d'abuser les Canois.
Vous les faites ressortir aujourd'hui.
Je pense que nous y gagnerions en démocratie.
À 3 semaines des élections.
Les agents de square sont aussi dans les squares. Et vous avez intégré les agents de square dans les effectifs administratifs. Ce sont des tours de passe-passe habituels que vous faites.
S'il vous plaît. Messieurs, nous allons donner la parole aux autres candidats. Madame Majerie, vous êtes impatiente de répondre. Je vous
alors
sens
moi, je voudrais dire que je ne trouve pas du tout normal qu'on ne puisse pas parler d'insécurité.
Allez-y.
Mais qu'on ne puisse pas parler d'insécurité de manière sereine. C'est un problème qui concerne tous les Canois. Donc, effectivement, il faut en parler sans se couper la parole ou sans faire des cris pendant qu'on a des propositions. Alors ce qu'on fait effectivement, nous aussi on a des idées, nous aussi on pense qu'il faut plus de policiers sur le terrain, mais une police de proximité, il faut une police dans les quartiers, et ce qu'on pense c'est que en voyant les habitants, surtout dans le quartier de la Frayère, où il y a des réels soucis, quand les gens appellent la police, elle arrive 3 heures après, quand il y a des soucis. Au lieu d'être présente de façon constante, mais aussi pour dialoguer, c'est-à-dire que la police, elle doit travailler en partenariat avec la gendarmerie, avec les forces de l'État, avec l'éducation nationale, avec les associations. Il ne faut pas laisser des quartiers totalement vides. Il y a des quartiers comme la Frayère où c'est effrayant de voir que ce sont des déserts et que ce sont des zones à l'abandon.
Cette police de proximité, Madame Magerie, si j'ai bien compris, vous la verriez plutôt donc assurée par la police municipale et non pas par la police nationale.
C'est un travail qui peut se faire en collaboration.
Catherine Dorten.
Bien moi, je dénonce pareil, là, ça devient vraiment politicien là. Moi, je trouve que pour la police, j'ai assisté, mon terrain de jeu à moi, c'est quand même beaucoup les marchés. Et beaucoup de gens se sont plaints, il y a eu énormément de cambriolages. Et je trouve qu'à Cannes, il n'y a pas de suivi dans les cambriolages. C'est-à-dire que beaucoup de personnes se sont vues spoliées, ont eu beaucoup de mal à s'en remettre, souvent des personnes faibles. Et je trouve que, personnellement, j'ai eu affaire, moi aussi, je ne vais pas dénigrer la police parce qu'ils font un travail, ils sont parfois très découragés parce qu'ils retrouvent les gens dehors très rapidement. Je pense qu'il y a un gros découragement dans la police municipale et dans la police nationale.
Alors qu'est-ce que vous faites en fait? Vous donnez des missions plus ciblées que comment vous vous y prenez?
Eh bien moi déjà, je redéploierai la police écologique là. Je trouve que quand je les vois à quatre pattes en train de fouiller un sac poubelle pour voir qui a laissé 3 revues, je les redéploierai pour s'occuper d'une personne âgée qui est cambriolée, et je suis en colère là, je vous le dis franchement, une personne qui a sa vie qui est gâchée, qui partira en maison de retraite et qu'il n'y aura aucun suivi, ou qu'un étranger va être spolié à Cannes. Alors on parle d'image de Cannes et qu'il n'y a pas une personne dans un commissariat qui parle anglais. J'ai la chance d'être polyglotte, donc j'ai servi d'interprète plusieurs fois. Alors on me parle d'image de Cannes, il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle russe. Sans aller jusqu'au russe, disons l'anglais, l'italien, c'est un minimum en période d'été.
La police municipale ou la police nationale?
Les deux.
La police nationale.
Dominique Enroux, pour le Front de Gauche. Alors, tout le monde veut redéployer les policiers municipaux. Moi, j'ai lu que vous disiez qu'il faut réexaminer les effectifs. Ça veut dire que pour vous, en fait, c'est l'inverse, il y en a trop?
Non. c'est pas ça du tout. Effectivement, nous, l'idée, c'est d'utiliser la police municipale pour faire de l'îlotage, dans les quartiers. Et dans le même temps, je voudrais rappeler quand même que... Le commissariat de police nationale est en sous-effectif chronique. Et qu'il est en sous-effectif chronique, le commissariat de la police nationale, mais aussi les travailleurs sociaux de la PJJ, tous ces gens-là sont en sous-effectif chronique, simplement parce que, à un moment donné, on a décidé de réduire le nombre de fonctionnaires.
C'est pas une question qui pourrait être réglée par le
futur maire. Non, mais attendez. C'est pas une question qui va être réglée. Quand la police municipale est contrainte de pallier aux insuffisances de la police nationale, c'est un problème. C'est un problème.
Qui c'est qui a fait baisser le nombre de policiers en France?
Si vous permettez, le gouvernement Sarkozy a quand même réduit le nombre de policiers de manière conséquente, et le nombre de travailleurs sociaux aussi. Depuis, il n'y a pas d'amélioration. Et on peut le regretter parce que c'est effectivement, si ça contraint la police municipale à effectuer des tâches qui ne sont pas les siennes, à un moment donné, ça pose problème. Par ailleurs, concernant la vidéosurveillance, nous ne sommes pas convaincus de son efficacité. On a pu voir cet été que des délinquants réussissaient à échapper à la police au final, parce que même étant filmés, on n'arrive pas à les reconnaître et à les démasquer.
Ça veut dire que vous en faites quoi de ce système de vidéosurveillance
Ce qu'on dit, on ne va pas jeter tout ça à la mer, parce que la municipalité de Cannes a fait des investissements énormes là-dedans. Mais prolonger cette affaire, ça nous pose problème. Donc on demande un audit de la vidéosurveillance pour voir quelle est sa réelle efficacité. On sait que...
Vous arrêteriez de multiplier les caméras.
Vous pourriez arrêter les caméras.
On va pas au-delà de ce qui est fait actuellement. On attend le résultat de l'audit pour voir ce qui est possible de faire.
Vous conservez ce qui est en place quand même?
Momentanément, oui.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, selon ce qu'on dit...
Jusqu'à l'audit. Voilà,
mais si l'audit considère que c'est efficace, vous les maintenez alors?
Voilà.
Si l'audit considère que c'est efficace, on peut le maintenir. Mais nous, on n'est pas favorable à des investissements de cette importance dans ce système-là. On pense que rien ne remplace l'humain. Rien ne remplace l'humain. Et effectivement, plutôt que des caméras de surveillance, il faut des hommes sur le terrain, des hommes et des femmes sur le terrain.
Il faut les deux.
On est d'accord.
Monsieur Villon, vous avez entendu sur la question de la sécurité. Rapidement, s'il vous plaît, allez-y.
J'ai été partie prenante il y a quelques années dans une société qui fait de la sécurité. Société anglaise très importante qui s'est développée maintenant aux États-Unis et que monsieur Jean-Pierre Venoux, qui est présent dans la salle, a rencontré.
Alors, sur le projet, vous
alors j'ai eu, grâce à ces travaux, accès à des statistiques. Alors, vous savez qu'il y a la polémique dans toute l'Europe, en fait, sur l'efficacité plus ou moins importante de chaque système.
Vous faites un audit aussi?
Alors, non, je n'ai pas besoin d'audit, je l'ai vu. J'ai vu les statistiques officielles de la police anglaise.
Et alors?
Les caméras. Oui, en Angleterre, vous savez que les caméras, il y en a, c'est plus qu'à Cannes, hein. Il y en a vraiment partout.
Moins qu'à Monaco.
Eh bien, l'efficacité est reconnue pour les caméras de vidéosurveillance de 16%. L'îlotage, puisque vous avez tous parlé d'îlotage, eh bien, c'est cette activité-là qui a le plus fort pourcentage de réussite. Ils sont aux alentours de... C'est 67% l'îlotage. Donc, comme on dit, il n'y a pas photo, hein, malgré les caméras.
Il est 19h30, passé de quelques secondes. Dans un instant, la suite de ce débat avec les questions de transport.
France Bleu, France Bleu. Avant, aux élections municipales dans les communes de 1000 habitants et plus, on votait pour une seule liste, celle des conseillers municipaux. Aujourd'hui, avec le même bulletin, on va aussi voter pour la liste des conseillers communautaires. Vous savez, ces élus qui gèrent la coopération intercommunale, comme le ramassage scolaire ou le traitement des eaux. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça très important. Du coup, ça me donne encore plus envie d'aller voter.
23 mars, 30 mars, élection municipale. Oui, je vote. Pour en savoir plus, rendez-vous sur oui-je-vote.fr.
Connaissez-vous si bien notre région? Êtes-vous un pro de la géo? France Bleu Azur organise un grand concours en partenariat avec jeu-géographique.com. Une carte de Provence-Alpes-Côte d'Azur, des villes à placer au kilomètre près en un minimum de temps. Et si vous faites partie des meilleurs, gagnez un week-end de charme près de Sisteron, au gîte de Tourtouze à Sigoyer. Amusez-vous à replacer le plus vite possible Mandelieu, Villeneuve-Loubet ou Tende sur la carte de PACA. Jouez tout de suite sur francebleu.fr.
France Bleu, partenaire de vos grands moments de rire.
À l'occasion du Festival des Arts Burlesques, Michel Boujna et Stéphane Rousseau assurent le spectacle.
Jeudi 6 mars à 12h30 dans France Bleu Midi, ensemble avec Daniela Lombroso.
Le Festival des Arts Burlesques à Saint-Étienne. Plus d'infos sur francebleu.fr.
Débat dans le cadre des élections municipales et nous sommes à Cannes ce soir, à Cannes en direct et en public depuis le théâtre de la Licorne. Nous sommes avec David Lisnard, Philippe Tabarot, Catherine Dorten, Anne Magerie, Dominique Enrault et Jean-Pierre Villon. Nous sommes en direct jusqu'à 20h.
Soirée spéciale, élections municipales sur France Bleu Azur.
Il y a à Cannes depuis quelques mois maintenant un bus en site propre, le bus à haut niveau de service. Il a été baptisé le Palme Express, inauguré au mois de novembre. Il est au centre des discordes, semble-t-il, entre vous. Philippe Tabarot, pourquoi critiquer cette ligne de bus? N'est-il pas un début de solution pour réduire les bouchons?
Écoutez, ça partait d'un bon principe de dire la collectivité souhaite, ou les collectivités souhaitent investir dans les transports en commun. Puisqu'on a conscience qu'on ne peut pas continuer sur le tout automobile. Par contre, j'ai trouvé que ce projet a été mené sans concertation. Alors certes, il y a eu les étapes différentes des enquêtes publiques, mais quand vous demandez aux personnes de participer dans une enquête publique et d'aller au quatrième étage d'une mairie pour aller mettre une appréciation, ce n'est pas une vraie consultation. Et moi, j'aurais souhaité un vrai référendum.
Si vous êtes élu, qu'est-ce que vous faites? Alors référendum avant de prolonger cette ligne?
Alors, Alors non, exactement. Je ferai un référendum parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette ligne 1 n'est pas terminée. C'est-à-dire qu'il y a 3,7 km qui sont réalisés sur les 11 km et que le projet initial de la municipalité, M. Lisnard était membre du SITP, donc il connaît bien ce dossier. Le bus est censé continuer dans le centre de la Boca, puis ensuite revenir dans la circulation normale à hauteur de l'église Sainte-Marguerite, de la salle de la Licorne, puisqu'il n'y a pas d'espace pour faire un site propre, et ensuite passer
et
par...
Et ce tracé ne convient pas.
Alors ensuite passer par Clémenceau, mais il faut le rappeler quand même aux Canois, passer par Clémenceau, passer par l'hôtel de ville, par une partie de la Croisette, pour remonter sur la rue des Serbes et revenir sur la gare SNCF. Donc je pense que beaucoup de Canois ne sont pas encore conscients de ça, et quand on voit le coût de la première partie de cette ligne 1, ça m'inquiète véritablement, à la fois qu'on reparte pour 2 années ou plus de travaux, et quand on voit les conséquences désastreuses que ça a eu sur le commerce, notamment boulevard Carnot, je suis particulièrement inquiet pour la suite de ce projet.
Mais qu'est-ce que vous faites si vous êtes élu alors ?
Je donne la parole aux Canois et j'organiserai, j'en ferai pas tous les dimanches, hein, mais 2-3 fois dans le mandat, j'organiserai des référendums d'initiative locale à la loi Raffarin pour pouvoir permettre aux Canois de se prononcer, et je le dis d'ores et déjà, je voterai non. Par contre, s'il y a une majorité de Canois qui votent pour continuer la ligne, je m'inclinerai devant le choix des Canois, mais sur des sujets aussi importants, quand on parle de 100, 110, 120 millions d'euros, il me semble la moindre des choses que de consulter des personnes qui vont être particulièrement gênées dans leur activité économique ou tout simplement dans leur qualité de vie.
Catherine Dorsen, je vois que vous avez envie de... Vous réagissez, on ne vous voit pas parce que nous sommes à la radio, mais vous avez l'air de vous exprimer aussi sur ce sujet.
Alors d'abord, je voudrais dire que je suis heureux qu'on fait appel aux référendums, qui sont quand même, c'est le Front National qui a proposé des référendums les premiers. Donc c'est bien maintenant qu'enfin on se rende compte. Le BHNS, il ne faut pas confondre esthétisme et utilité. Le temps de parcours, je crois qu'on a économisé 4 minutes. Il y a eu beaucoup de pertes humaines. Je crois même qu'il y a eu un suicide chez un commerçant. On a vu peu à peu tout fermer. Et je trouve que le BHNS, ça a été mal ficelé. C'est-à-dire que l'idée était bonne au départ. On a consulté, je suis un petit peu... Pour cela, on ne m'accuse pas d'avoir des tendances avec M. Tabarot, mais pour cela, je suis un petit peu...
Un référendum aussi, alors, pour vous, c'est ça?
Pardon?
Référendum.
Je me demandais qui copiait qui, là, entre les deux.
Pardon?
Non? Poursuivez, Mme Dorsen.
Vous savez, Monsieur David Lisnard, je serais d'accord avec vous pour cette chose. Je serais d'accord avec Mme Magerie pour certaines choses. Je serais d'accord. Moi, je vois l'intérêt des Canois.
Alors, sur le
je
bus...
Suis pas...
Sur l'extension de la ligne.
Je ferai un audit. D'ailleurs, je ferai un audit sur tout à Cannes, parce que je trouve que, bon, avant de prendre des décisions hâtives, mais je trouve que le BHNS a... Alors, il faut être honnête, ça a pacifié... c'était très dense, la circulation boulevard Carnot, ça c'est sûr, mais pour une petite... Enfin, c'est quand même assez grand le boulevard Carnot, mais pour une petite minorité de gens, les automobilistes, c'est épouvantable. C'est-à-dire qu'on consomme énormément d'essence. Alors on nous parle de pollution et de choses comme ça. On était obligé de faire des tas de détours. Je me suis trouvé un jour, je pouvais même pas rentrer dans ma rue. Avenue des Anglais, c'était pas possible.
Et ça, c'est le constat. Mais qu'est-ce que vous faites si vous êtes élu le 30 mars? Est-ce que vous suspendez le projet d'extension? Est-ce que vous le modifiez? Qu'est-ce que vous faites?
Je demanderai l'avis des Canois maintenant qu'on a investi.
Mais votre avis personnel?
Pour moi, j'arrêterai.
Vous êtes Canois quand même tous.
Oui. Réponse de David Lisnard, allez-y sur ce bus au niveau de service.
Non mais simplement...
Vous avez deux candidats qui disent, moi je fais un adorme,
mais au départ, je n'aurais pas fait ça. Au départ, j'aurais conçu quelque chose de tout à fait différent. D'accord. J'aurais investi, j'aurais couvert la gare, j'aurais amené, si vous voulez, les quartiers sud et nord rapprochés. Le BHNS, je ne dis pas que c'était une mauvaise intention, mais c'est mal ficelé ce projet. Les gens en voient les conséquences, l'automobiliste est épouvantable, on pique des crises, n'ayez pas 5 enfants à Cannes ou 4 enfants à Cannes. Vous allez passer des heures à circuler dans Cannes, c'est épouvantable.
David Lisnard, votre réponse sur ce dossier du bus à haut niveau de service.
Il faut aller vers l'avenir, puis il faut regarder ce qui a été fait. Alors, j'ai pas 4 ou 5 enfants, j'en ai 3 que je conduis dans Cannes.
Ça viendra, monsieur Lisnard,
sur la bonne voie. Je crois que je compte arrêter là, j'ai déjà bien contribué à la dynamique française. Simplement, s'il y a une ligne S'il y a un endroit où le SITP n'a pas pu terminer la ligne qui avait été prévue, c'est au Canet. Et il est vrai que la position l'on vient d'entendre,
on
le
vol
se fasse que l'on vient d'entendre, a suivi.
C'est toujours la faute du Canet, monsieur
de la commune.
Qu'est-ce
du Canet.
Qu'est-ce que vous feriez dans votre vie
Je voudrais
sans le
simplement
Canet,
rappeler quelques éléments.
S'il vous plaît,
S'il vous plaît.
Écoutez, je pense qu'on peut. Je donne des choses factuelles. Moi, je ne dépends pas du Canet pour vivre, donc ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais dans la vie.
Non. Vous dépendez des contribuables canois sur les binaires grassement, par le SICACI, par votre poste d'adjoint, par votre poste de président de la CEMEC. C'est le contribuable canois.
S'il vous plaît, monsieur Lisnard a fini.
S'il vous plaît.
David Lisnard, poursuivez, s'il vous plaît. Merci.
Donc, rappelons les faits. J'ai été délégué du SITP jusqu'en 2008. Et ce projet du bus à haut niveau de service a été conçu à l'unanimité par trois communes, Mandelieu, Cannes-le-Canet, dans son tracé actuel, avec le modus operandi qui a été suivi. Il y a eu un volte-face d'une commune juste avant les élections, qui est la commune du Canet, c'est factuel, c'est vérifiable, il y a des délibérations. 9 réunions publiques de concertation, y compris avec un bus itinérant dans les quartiers, ont été menées pour mener ce projet. Alors, c'est jamais l'idéal, mais c'est un projet qui a permis d'augmenter la cadence, de transformer l'entrée de la Boca de façon extrêmement esthétique et positive, d'améliorer le boulevard Carnot, qui n'était pas un long fleuve tranquille, hein, le boulevard Carnot. J'allais au lycée Carnot, d'autres ici aussi. Il y avait des
bouchons
déjà, et il y en aura
d'autres. Ça pourrait être tranquille, ils sont tranquilles, boulevard Carnot.
Et aujourd'hui, on a un boulevard Carnot esthétique, avec une circulation apaisée, et avec, sur la ligne 20, une augmentation du nombre de tickets de bus de 35% en un an. Alors maintenant, il faut continuer à développer
les transports. Donc on poursuit, il n'y a pas de doute.
Avec une augmentation quand même de 50% du ticket en passant par là.
Madame Dorten, je crois qu'il faut que vous modériez votre expression et que vous connaissiez aussi la réalité des faits. L'augmentation du ticket, c'est le ticket à l'unité qui a été voté par le département, accepté par tous les conseillers généraux, y compris tous ceux qui sont ici présents.
Décidé par votre ami monsieur Ciotti.
On a réussi à sauver à Cannes et dans
décidé
les autres communes,
par monsieur
et en tout
Ciotti,
cas dans le SITP.
Bonne
quand vous
amie.
Achetez un carnet de 10 tickets, il y a 10 euros. Hein, c'est donc 1 euro le ticket encore aujourd'hui.
David Lisnard, qu'est-ce
et de toute façon, c'est soit le contribuable, soit l'usager qui paie.
Donc vous poursuivez.
Donc il faut poursuivre pour traiter le problème du centre de la Boca en réhabilitant et en rénovant, en embellissant tout le centre de la Boca avec un BHNS dans le sens ouest-est et avec des stationnements qui accompagnent la ligne. Ensuite, il faut développer des transports pour mieux desservir les quartiers. Le transport en commun est une des priorités de mon projet que j'ai présenté longuement dans cette même salle. Avec des quartiers comme les Gourguettes qui doivent être desservis, l'avenue de Valoris, la Croix des Gardes, Oxford, bref des quartiers. Et ensuite, une meilleure desserte dans le temps aussi. Il faut développer les bus de nuit pour que l'on puisse aller au spectacle, que l'on puisse aller au théâtre, qu'on puisse aller au restaurant le soir. Enfin, c'est très important.
Anne Magerie, enfin, allez-y, sur les transports en commun.
Alors,
Anne Magerie.
Je pense qu'effectivement, il y a...
Et sur la Croisette, monsieur Lisnard, vous continuez le BHNS sur la Croisette.
Non, la rue des Serbes, c'est en permanence.
Anne Magerie avait démarré.
C'est pas notre projet qui a été
tout de suite. On a la plaquette, il est là. Madame, vous avez déjà posé... Madame Magerie, vous avez déjà posé votre question. Je pense que c'est peut-être un peu à nous à parler.
Madame Magerie, nous vous écoutons.
Non, j'ai oublié dans la voiture, la plaquette.
Notre point de vue, c'est qu'effectivement, il y a peut-être d'autres alternatives que le BHNS. Le BHNS, on va pas le détruire. Il y a des choses positives qui ont été faites. Ça a pris du temps. C'est un peu dommage qu'encore une fois, la querelle des frères ennemis ait permis que ça s'arrête au lycée Carnot et puis qu'après, il n'y ait plus rien qui poursuive. Ça, c'est une première chose. Moi, j'ai rencontré des commerçants cet après-midi qui m'ont dit que c'était désastreux pour les livraisons, qui n'arrivaient pas à stationner leur camion pour décharger ou pour charger. Et ça pose un réel problème. Et là, je crois qu'il y a des choses à revoir, ne serait-ce que reprendre la chaussée, les trottoirs, de façon
à laisser... Il y a le même nombre de places de stationnement qu'avant et d'air de livraison. Hein, je tiens à le dire quand même. Et
c'est mais ça ne suffit pas pour les commerçants. Ça, c'était
plus qu'avant encore.
C'était très clair aujourd'hui. Et beaucoup de commerçants se plaignent, les pharmaciens, les restaurateurs... Beaucoup de gens aussi du côté du boulevard dans le quartier République, parce qu'ils ne peuvent pas, à cause des chemins piétonnés, alors que ça se passe mieux, finalement, rue d'Antibes qui est plus étroite, qui est une rue plus étroite, bah, ça se passe mal du côté de la rue Mimon. Bon, il y a effectivement beaucoup de problèmes. Nous, on a quand même l'idée aussi d'avoir des projets différents, c'est-à-dire de favoriser tout ce qui est transport durable, c'est-à-dire le transport avec la location de voitures électriques, avec la location de vélos électriques.
En libre service.
Voilà, en libre service, qui n'est pas du tout développé à Cannes et qui permettrait une alternative. Parce que les gens, quand ils viennent à Cannes, et quand ils veulent même, les gens de la Boca, quand ils veulent aller faire des courses, bon, ils ont un problème de stationnement, c'est réel. Ils ont parfois des temps de transport qui restent quand même malgré tout longs. Donc ils vont ailleurs. Et là, il y a un vrai souci dont il faut sur lequel il faut se pencher.
Dominique Corot, vous préconisez les transports gratuits pour tous. Comment vous financez ça?
C'est très simple. Ça, c'est pas une idée farfelue qui m'est venue comme ça. Hein. C'est une réalité dans beaucoup de villes. Dirigé par la droite comme par la gauche. C'est financé simplement par une taxe.
Combien ça vous coûte ?
Une taxe qui existe sur les entreprises de plus de 9 salariés.
Est-ce que vous savez combien ça vous coûterait pour Cannes ?
Cette taxe, elle est existante, donc c'est pas la peine de faire oh, elle existe.
Alors
les entreprises de 9 salariés la payent déjà, donc il suffit de l'affecter au transport. On constate, par exemple, vous parliez tout à l'heure de l'augmentation du ticket de bus qui est passé à 1,50 €. Quand le ticket de bus a été voté par le département à 1 €, l'augmentation de la fréquentation a été de 25% sur les bus du département. Hein. L'augmentation immédiate de 25%. On constate dans la communauté d'agglomération d'Aubagne une augmentation énorme de la fréquentation. Alors, en même temps, il faut densifier le réseau, c'est évident. En même temps, il faut avoir une vue d'ensemble du problème. C'est-à-dire que le BHNS, par exemple, il doit passer à la Boca, au rond-point d'entrée de l'autoroute. Il doit y avoir là un parking de délestage et de covoiturage, ce que n'a pas fait le Conseil général. Ce que n'a pas fait le Conseil général quand ils ont fait cette chose-là. Et là, il faut un parking
relais.
Gratuit et surveillé qui permette aux gens de laisser leur voiture. Il y aura moins de problèmes de parking dans Cannes quand on y fera moins rentrer de voitures et qu'on aura développé les transports en commun.
Merci,
s'il vous
plaît. Merci, il faut passer à un autre thème.
Il est 19h45 sur France Bleu. Nous allons parler fiscalité et logement.
On vient faire quoi, là?
S'il vous plaît,
qui ont coûté une fortune.
S'il vous plaît,
moi, je vous signale.
Il y a des piquets qui ont 3 cm.
Quand on prend le train, quand on prend le TER à La Frayère pour aller au centre-ville de la Boca, il y en a pour 7 minutes. Il n'y a pas de problème de parking. Et comme ça, on voyage dans un train tout à fait confortable. On peut tout à fait trouver une convention avec la région pour rendre ce train gratuit. Il passe à La Frayère, il passe à la gare de la Boca, il passe à Ranguin. Et plutôt que d'avoir des voitures qui vont jusqu'au centre-ville et qui ne trouvent pas à se garer, on peut prendre le train aussi bien que le bus.
D'accord, merci Monsieur Henrot. Question essentielle pour cette campagne, c'est la fiscalité, les impôts. Monsieur, il est 19h46, nous marquons une pause, je reviens vers vous tout de suite après.
France Bleu.
Bonjour, c'est Daniela Lombroso. Toute la semaine, on passe une heure ensemble avec un invité qui fait l'actu. À chaque instant, vous pouvez lui poser vos questions en direct.
France Bleu Midi, ensemble.
Et puis, ciné, musique, télé, people, nos chroniqueurs vous dévoilent tout ce qui fait le buzz. France Bleu Midi, ensemble, tous les jours sur France Bleu, à midi.
France Bleu Azur Matin vous donne la parole tous les jours à 8h10.
Oui, alors moi je trouve que c'est une excellente idée.
Exprimez-vous sur les sujets qui font l'actualité.
Tout ce que j'entends, je trouve que c'est ridicule.
Et donnez votre avis en direct au 04 93 82 03 04.
Honnêtement, je vous ai appelé pour choquer un peu les gens.
Réagissez tous les jours, du lundi au vendredi à 8h10.
La ligne ouverte de France Bleu Azur.
Nous sommes en direct du Théâtre de la Licorne à Cannes, en public. Vous êtes très nombreux à nous avoir rejoints et je vous en remercie. Dans ce Théâtre de la Licorne, plus de 500 personnes autour de nous pour ce débat. La question essentielle dans cette campagne, parce qu'elle intéresse absolument tous les contribuables, ce sont vos projets, mesdames et messieurs. En matière de fiscalité et d'impôts locaux, vont-ils baisser, augmenter? C'est important. Chacun et chacune, vous avez sans doute un programme très précis là-dessus. Madame Dorten, qu'est-ce que vous faites en matière de fiscalité?
D'abord, la première chose que je ferai quand je rentre à la mairie, c'est d'abord remercier les gens qui m'auront élue et deuxièmement, faire un audit sur tout.
Et une fois que c'est tenu,
je trouve ça, il y a une hémorragie de promesses. Et j'espère que vous avez tous des petits carnets pour noter, parce qu'il y a une hémorragie de promesses. Moi, je ne promettrai que ce que je tiendrai. Donc là, si vous voulez, je ne pense pas qu'on puisse...
Bien sûr, on peut pas promettre.
On baissera, on fera tout ce qu'on peut pour baisser. Il faut savoir qu'à Paris... la valeur locative va augmenter de 400 à 500% sur toute la France. Donc automatiquement, vos impôts vont augmenter dans la part nationale. Il faut arrêter, si vous voulez, on va vers une catastrophe dans les finances.
Catherine Dorten, vous parlez de subventions injustifiées, mais vous ne dites pas lesquelles. Alors précisément, de quoi vous parlez ? C'est dans votre programme. Subventions injustifiées, vous dites on peut faire des économies, il y a du gaspillage. Vous parlez de centaines de milliers d'euros, mais on ne sait pas de quel projet il s'agit.
Par exemple, les associations, il faut, bon, à Cannes, on n'a pas encore trop exagéré par rapport à certaines communes, mais plus dépenser de l'argent, surtout plus faire des études. Je sais que M. Brochand n'aime pas les études, mais il y en a eu quelques-unes qui ont été faites quand même, qui coûtent très cher.
Sur quoi, par exemple ?
Bon, je ne vais pas citer là, mais il y a eu des études qui ont été faites.
Il y a le Grand Bleu qui a coûté 4 millions, semble-t-il. Le Grand Bleu a coûté 4 millions.
Il y a eu beaucoup d'études, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Moi, j'ai voulu parler des piquets, là, tout à l'heure, parce que là, ça a coûté très cher. On fera des économies sur des tas de choses qui peuvent être évitées. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Camerounois moyen qui travaille et qui, pour le moment, voit ses impôts augmenter, qui voit ses enfants dans des écoles privées, qui ne peut plus. Il y a plein de choses où on n'a plus accès à Cannes, et on en a marre. Et c'est pour ça que je me suis investie, et je représente ces gens-là qui n'en peuvent plus.
Philippe Tabarot,
oui.
Sur la taxe d'habitation, sur la taxe d'habitation, vous dites qu'on la baisse de 10% oui. Par an, pareil. Comment on fait ? C'est ma question.
Je vais vous expliquer très concrètement. Sur les frais d'études, je pense que Mme Dorten voulait parler des 6 millions d'euros de frais d'études.
Vous venez à sa rescousse, alors ?
Non, simplement préciser des points qu'elle n'a peut-être pas précisé. 6 millions d'euros de frais d'études sur le boulevard Pierre-Sémard, 5,5 millions sur la nouvelle piscine olympique. Donc vous voyez que...
Vos propositions.
Voilà. Alors mes propositions.
Comment on s'y prend ? 10% par an, c'est énorme.
Alors je sais déjà que je suis dans la ville, la deuxième ville la plus endettée de France, que l'endettement a augmenté de 87% en deux mandats, malgré la vente de près de 50 millions de patrimoine communal, Villa Maurice Chevalier, Tennis du Gallia, etc. etc. Pour ceux qui ont la possibilité, lisez le magazine Capital du mois de mars, il est particulièrement intéressant.
Vous m'avez toujours pas répondu sur
les 10%, sur la taxe d'habitation.
Alors j'arrive. Concernant la baisse de la taxe d'habitation de 10%.
Par an, hein, en plus.
J'ai jamais dit ça, monsieur. Jamais. Première année 2014, baisse de moins de 10% et le maintien du taux sur les 5 autres années. Hein, j'ai toujours tenu ce propos.
Ça sera très difficile.
Donc, alors, une seule fois.
Alors, comment le financer ? Et pourquoi le financer ? Le plus important, c'est le pourquoi. Parce que comme ça a été dit, je crois qu'il y a un canne à deux vitesses. Il y a des personnes qui peuvent aujourd'hui profiter de l'attractivité économique de notre ville, même si elle est en baisse et même si on a perdu un certain nombre de congrès. Pour autant, il y a des personnes qui en vivent. Et il y a une autre partie de la population qui se dit... on est retraité, on a une activité autre et on ne se sent pas... dans notre ville des citoyens à part entière parce qu'on n'a pas accès au palais des festivals et parce qu'on en subit que les nuisances. Donc à partir de là, pour que ces gens se sentent de nouveau associés à leur ville et qu'il n'y ait pas une coupure entre les Cannois, je souhaite baisser cette taxe d'habitation sur la symbolique de rendre Cannes à ses habitants et de leur rendre un petit peu de pouvoir d'achat. Et comment le faire ? Très bonne question. Comment le faire ? Je vous ai fait simplement deux annonces en termes fiscaux. Je vous ai dit baisse de la taxe d'habitation de 10% et je vous ai dit également une embauche de 50 policiers municipaux supplémentaires. Donc comment on le fait ? Il suffit de réduire de 3% les frais de fonctionnement de la ville qui depuis 2001 ont augmenté de 45%. Vous faites une économie de 8 millions d'euros et cette économie vous permet de rendre aux Cannois 6,5 millions parce que le produit de la taxe d'habitation c'est 65 millions d'euros et 50 policiers ça coûte 1,5 million. Donc voilà comment je me finance les deux mesures fortes de mon mandat.
David Lisnard, réponse de David Lisnard sur cette fiscalité cannoise. Est-ce que c'est jouable selon vous de baisser la taxe d'habitation ?
Je veux vous dire ce que je compte faire et puis la réalité de la situation, parce que ce n'est pas en répétant des mensonges que cela devient des vérités. Alors, pour que les choses soient claires. Quand on entend dire la deuxième ville la plus endettée de France, c'est effectivement un énorme mensonge. Et plutôt que de capital, je vous invite à lire le rapport de la Chambre régionale des comptes et de tous les organismes de notation qui vous diront la chose suivante. Au moment où on se parle, la dette de Cannes, c'est 245 millions d'euros. Par rapport à des recettes... Oui, 245 millions d'euros au moment où on se parle.
Vous avez vendu.
Par rapport à des recettes de fonctionnement qui sont de plus de 290 millions. Le seul ratio qui compte, c'est la dette par rapport à la richesse du budget. Imaginez un ménage riche qui gagne 10 000 euros par mois, qui a 2 millions d'euros de patrimoine. S'il a 20 000 euros de dette, c'est moins grave qu'un ménage qui gagne 2 000 euros par mois, qui n'a pas de patrimoine et qui n'a que 5 000 euros de dette. Donc on a une dette par rapport aux richesses de fonctionnement de moins de 90%. La moyenne française, c'est 120%. L'autre ratio, c'est la durée de remboursement de la dette, puisque le budget est excédentaire tous les ans. La durée de remboursement de la dette de Cannes, c'est 6 ans. La durée de remboursement moyenne en France, elle va vers 8 ans. Il y a des communes, je pense au Canet, 26 ans de remboursement de la dette.
Donc, David Lisson, que faites-vous alors pour les impôts locaux ?
Je pense que les leçons... Ce qui consiste.
Mais vous êtes gonflé. Hein.
Ce qui consiste à dire.
Je voudrais terminer le raisonnement. Et vous me permettez de parler très vite.
Je voudrais terminer le raisonnement.
Vous permettez de parler des autres.
Donc,
je vous souhaite de gérer aussi bien la vie du Canet qu'elle a été gérée pendant toutes ces années.
En tout cas.
Mais ça, vous n'aurez pas l'occasion de le faire parce que vous ne serez pas maire de Cannes.
Voilà. Bien sûr. Réponse,
s'il vous plaît. Donc, si je peux terminer mon raisonnement, la ville de Cannes a joué la transparence. On a réintégré dans la dette des dettes qui étaient des dettes hors bilan. Monsieur, moi, je vous le dis très clairement. Je pense que pour respecter les habitants, les Canois, les débatteurs, on peut les laisser s'exprimer. C'est la moindre des choses dans une démocratie mature. Donc on a réintégré des dettes hors bilan.
S'il vous plaît.
Et le patrimoine communal a augmenté de 420 millions en 10 ans. Donc là-dessus, aujourd'hui, j'entends les contradictions de ceux qui vous disent « Je veux donner la gratuité du bus à plus de 65 ans, recruter des policiers,
vous avez tout vendu.
Faire tout ce que vous nous dites en dépenses, dire que la ville est surendettée en baissant la taxe d'habitation. Ça me fait penser à moi, président. Vous faites moi, maire, ça se finira mal. De la même façon, on évitera.
Vous avez tout vendu.
Alors ce que j'ai prévu, j'ai fait des projections financières. En réduisant l'investissement en moyenne, j'appliquerai le principe de prudence budgétaire. Comme je l'ai fait au Palais, qu'on a totalement désendetté. 12 millions d'euros il y a 13 ans, zéro de dette aujourd'hui. Et en appliquant le principe de prudence budgétaire. Donc, j'ai construit un projet autour d'une hypothèse d'investissement de 43 millions d'euros par an. Donc, moins que les dernières années. Et avec une stricte maîtrise des dépenses de fonctionnement. Il faudrait que vous nous disiez les dépenses de fonctionnement, parce que les dépenses de fonctionnement, ce n'est pas des dépenses de train de vie. C'est là où vous confondez tout.
Mais je vais vous en
la masse salariale de la ville de Cannes, c'est 37% des recettes de fonctionnement. La moyenne française, c'est 50%. Le reste des dépenses de fonctionnement, ce sont des écoles. Ce sont des écoles dans les crèches. C'est de la sécurité. C'est presque tout ce qui contribue à la qualité.
Je vais vous en donner
d'autres. Et ça, c'est particulièrement important. Donc, si on arrive à avoir des excédents budgétaires supplémentaires aux prévisionnels, dans ce cas-là, on accélérera encore le désendettement. Moi, j'ai prévu 195 millions d'euros de dette dans 6 ans. Deuxièmement, on fera plus d'investissements et plus d'équipements pour les Canois. Et troisièmement, dans ce cas-là, on baisserait non seulement la taxe d'habitation, mais le foncier bâti. Mais à condition que les hypothèses financières soient solides. Vous savez, les jeux de gogo, les promesses à 3 semaines des élections, ça, c'est ce qui nous conduit dans le mur.
Voilà. Et vous, de faire la...
S'il vous plaît. Et Madame Majerie, rapidement, j'ai une question à vous poser à tous. Il nous reste 3 minutes de débat, Madame Majerie, s'il vous plaît, sur la fiscalité.
Bon, nous, effectivement, on veut pas faire dépenser. On voit, effectivement, en lisant l'article de Capital, que... Cannes est la ville la plus dépensière, en termes de la mairie la plus dépensière, et qu'on a les impôts les plus élevés. Bon, bien sûr, on ne va ni demander d'augmenter les impôts, ni augmenter les dépenses. Ça, c'est la première
chose. Comment vous réduisez la dette ?
Une solution.
Bah, là, je pense qu'effectivement, et là, je ne vais pas dire que du mal de la politique municipale, que ce qui se passe au niveau du désendettement grâce au Palais n'est pas une mauvaise chose et qu'il faut, que ça doit être un plus. Le Palais est effectivement un atout pour la ville de Cannes et la ville de Cannes est une ville riche. Mais là où j'aimerais bien retourner un petit peu la question, c'est que comment peut-on dire que Cannes est une ville riche et qu'elle n'a finalement pas de problème, pas un si gros problème d'endettement, alors qu'on ne peut pas financer la réforme des rythmes scolaires. Expliquez-moi pourquoi.
On n'a pas dit ça.
David Lisnard, un mot, rapidement.
On n'a absolument pas dit ça. On a dit simplement... que l'État ne manquait pas de culot lorsqu'il informe une réforme et lorsqu'il impose une réforme aux collectivités. C'est vrai pour toutes les communes d'ailleurs, même de droite et de gauche. Écoutez ce qu'on dit, ce qu'a dit le maire de Colomb, et qu'il le fait financer par les autres. C'est une façon facile de réformer.
Ça se passe très bien à Mansartou pourtant. À Mansartou, les gens sont contents.
Il y a au moins un exemple, vous voyez.
Très très rapidement, il nous reste une petite minute.
83%
sur les rythmes scolaires.
Juste sur le désendettement de la ville, c'est pas un choix, c'est une obligation. Vous avez pris il y a quelques emprunts, des emprunts in fine, qui font que on a remboursé les intérêts, on est obligé de rembourser maintenant pour 4 ans l'intégralité du capital. Donc vous avez plombé la ville de Cannes au niveau de son budget pour les 4 prochaines années. C'est pour ça que vous ne pouvez pas investir plus. C'est pour ça que vous ne pouvez pas investir plus. Mais oui, vous le savez.
Comme l'MDS a plombé la même chose au niveau national. Il est presque 20h et c'est la fin de ce débat. Le temps passe très vite et oui, désolé, mais nous continuons dans cette salle avec nos confrères de Nice Matin. Il est 20h, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Des extraits à retrouver demain matin sur France Bleu Azur dès 6h, sur notre site internet francebleuazur.fr, dans les pages de Nice Matin jeudi. Bonne soirée, prochain débat en public et en direct demain mercredi à 19h. Nous serons à Menton.